Bonjour et bienvenue à Regards Croisés avec Fulgence Blas et
Arlette Farah.
Ouais, alors bonjour Arlette, comment vas-tu?
Ben, je vais bien, on a passé notre première semaine 2021, comme on le disait hier, donc c'est notre dernier jour de la semaine. Lundi prochain, on sera déjà habitué à dire 2021.
C'est vrai.
Qu'est-ce qu'on a comme invité
aujourd'hui? Oui, on a mis, on laisse de 2020 derrière nous, là, on embrasse maintenant 2021. On espère qu'on va.
On l'embrasse bien fort.
Ouais. Alors, Arlette, on reçoit une auteure, une jeune auteure aujourd'hui qui va nous parler de son deuxième roman, son deuxième livre. Oui, Mathilda Toupie-Fortune, qui nous parle des écrous du temps percé, partie 1. Donc, voilà, ça va être littérature en première partie de l'émission, quoi. Et toi,
et en deuxième partie, ben, je l'avais annoncé à ceux qui nous suivent, alors pour ceux qui arrivent, en milieu de semaine, j'ai décidé que j'allais me trouver quatre sujets qui m'ont fait sourire ou qui m'ont plu ou qui m'ont donné de la joie. Donc, je vais vous en parler dans la deuxième demi-heure. Alors, restez avec nous.
Oh, moi, j'avais voulu, je pensais beaucoup plus rire que de sourire. Bon, de toute façon, j'ai hâte de découvrir ces quatre nouvelles.
On va sourire.
Tu parles de sourire, mais peut-être que moi, ça me fera rire. Voilà, avoir la banane, c'est tout, quoi. L'essentiel, c'est d'avoir la banane.
C'est ça.
Voilà. Arlette, on va en musique tout de suite avec Double Header et Dominique, fils aimé, Diamond Flake.
Down.
C'était Double Header et Dominique Fils Aimé, Diamond Flake. Alors, comme je l'avais annoncé en début d'émission, nous avons déjà notre invité au bout du fil. Voilà, une jeune auteure talentueuse d'ailleurs, qui sort son deuxième roman. Un peu sur le premier volet d'ailleurs, le premier roman de Mathilda Toupé-Fortune, Le Prince Osfrid, mais qui met en scène Osfrid, prince de Midgard, un adolescent superbe, mais dont la santé décline, et puis c'en est trop d'ailleurs pour la fierté du jeune homme qui un jour décide de quitter le royaume. Le jeune prince infirme devra faire preuve de courage pour surmonter les obstacles rencontrés sur sa route. Voilà, ça c'est son premier. Maintenant, le deuxième que j'en mets ici face à moi, d'abord je lui dis merci, après quand je vais lui dire bonjour, Mathilda Toupé-Fortune, Les écrous du temps percés, partie 1. Voilà. Ça, c'est, elle est diplômée en psychologie et en criminologie. Elle a travaillé de nombreuses années auprès des populations vulnérables, passionnée de théâtre et de littérature. C'est tout naturellement qu'elle s'est lancée dans l'écriture de cette série de romans. Le regard des autres, la perception de soi, la quête d'identité et le maintien de l'équilibre mental sont des thématiques qui lui tiennent particulièrement à cœur. Donc, après les avoir étudiées sur le terrain, elle souhaite maintenant cette fois-ci les prendre sa plume par le biais de l'écriture, bien sûr, avant d'aider les lecteurs à trouver leur chemin. Bonjour Mathilda.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, merci, et vous?
Bonne année à vous.
Oui, merci, bonne année aussi à vous.
Oui,
à vous
tous. 2021. Merci pour la copie du livre et la jolie carte de bonne année qui l'a accompagnée.
J'ai dit,
waouh, quelle belle carte, jolie fleur là-dessus. Alors, ce nouveau bébé. Et il sort bientôt, là. Il sera bientôt. Il est déjà sorti, mais il sera en librairie à partir de la semaine prochaine, le lundi 18 janvier 2021.
Oui, ça commence bien l'année.
Oui, ça commence très bien l'année.
Oui, c'est un nouveau bébé.
Oui.
Effectivement.
Oui.
Mais c'est la suite d'un. C'est le deuxième volet d'une tétralogie. Donc, c'est 4 romans.
Oui.
Et donc les années prochaines, il va y avoir les deux autres volets.
Les deux autres volets qui vont suivre.
Exactement.
Ouais. Comment est-ce que la rencontre entre vous et l'écriture s'est passée? Comment vous êtes arrivé à l'écriture?
Ça a toujours été présent. J'ai toujours eu un journal intime avec moi depuis très jeune, depuis que je sais écrire, j'imagine.
Oui.
Mais je l'avais codé. Ça veut dire que j'avais un journal, j'écrivais ce qui se passait durant la journée, mais c'était codé en poème, c'était codé avec des histoires particulières. Donc j'avais toujours un attrait pour écrire, pour les histoires.
Oui.
Et puis avec l'écriture, je me suis fait remarquer par mon professeur de littérature qui a créer une classe, un groupe de théâtre. Donc on allait faire du théâtre en Guadeloupe, dans des salles. On faisait plusieurs représentations. Aussi, quand je suis arrivée à Montréal en 2001, je me suis fait aussi remarquer par mon professeur de littérature qui m'a dit « dirige-toi en L ». Mais bon, je sais, ça n'a pas été fait, mais j'avais toujours cette envie, ce besoin d'écrire.
Oui.
Des poèmes, j'en ai écrit beaucoup. Et j'en ai écrit sur la mythologie grecque, un dialogue amoureux avec Eurydice et Orphée.
Oui.
Et à ce moment-là, un proche m'a dit, vas-y dans les romans.
C'est ce qui vous a donné cet imaginaire extrêmement développé qui part d'un monde de Dieu, on va dire, comme ça, de plusieurs dieux, avec un mélange avec le monde de la Terre. Ça, vous avez toujours rêvé de cette façon-là, dans vos livres?
Non, en fait, je suis partie d'un monde qui existait déjà. Je voulais commencer un roman où je pouvais intégrer des éléments. Alors, la mythologie nordique, elle existe depuis des millénaires.
Des millénaires,
avec,
oui, c'est vrai.
Avec Thor, avec le dieu Odin, tout le monde existe déjà. Donc j'avais besoin d'un concept de monde qui existait et que je pouvais insérer des histoires. Donc à partir de là, j'avais pas besoin d'inventer toutes les caractéristiques de plusieurs dieux ou de plus, parce que c'était déjà présent.
Oui, ils étaient déjà existants.
Les roues sont déjà inventées. On ne va plus réinventer les roues.
Exactement. On part de quelque chose et on construit quelque chose de nouveau ou d'original dessus.
Oui.
Donc, c'est surtout ça.
Et sur, alors, je vais vous laisser parler de votre livre, mais juste, puisque vous êtes une auteure, est-ce que vous pensez de plus en plus, avec ce qui se passe dans le monde actuel, puis on ne sait pas où ça nous mène, à faire des livres audio?
Oui, oui, c'est, ça a été tout de suite un choix. Donc, j'ai abordé pour les livres audio. Donc là, on est en train de voir comment on peut procéder. Je pense que c'est une très bonne alternative. En ce moment, surtout, on a besoin de d'écouter des histoires et de l'oralité, ça fait qu'on retient aussi plus de choses.
Oui, oui.
C'est vrai.
Oui, oui, oui.
C'est
alors,
vrai.
Arlette, tu voulais...
Vas-y, Fulgence. Non, 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 c'était juste ça, parce que je me disais que dans des histoires comme ça, mélangeant le mythique et tout ça, ça devait être encore plus berçant de se l'entendre raconter.
Mmh, mmh. Et vous, Mathilde, à vous, en tant que jeune auteur, vous n'avez pas eu peur de rentrer, de faire votre entrée dans cette littérature de l'imaginaire ou bien avec cette série de romans inspirés de la mythologie nordique? Vous, j'y vais.
C'est quelque chose qui se travaille. Hein. C'est pas un saut sans parachute. On vérifie 50 fois le parachute avant de sauter.
Oui. Même 10 000 fois.
Oui, et même là, on n'est pas sûr que ça va bien se passer.
Oui.
Ça se programme. On décide. J'ai pas décidé comme ça. Je l'ai programmé, je l'ai planifié, j'ai organisé, j'ai construit les personnages, construit les scènes importantes. Ça prend quand même un plan d'action pour arriver à aller puis à créer et ensuite à corriger ce qu'on a fait.
Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez le livre devant vous?
Oui, j'ai les Écrous du Temps Percé, puis le Prince Astrid, oui.
Les Écrous du Temps Percé, parce que j'ai demandé de nous lire quelques petits passages, là, ça nous fait. J'aimerais bien le faire, mais ça, quand vous ne serez pas là, à une prochaine émission, moi, je vais lire des passages. Mais c'est pas quand vous êtes avec nous en direct, là, que je vais lire. C'est vous qui allez lire quelques passages pour nous, ça vous va?
Oui, bien sûr, je vais juste ouvrir le livre.
Voilà, chercher quelque chose. On a encore quelques 30 secondes. On va aller écouter une pièce musicale encore et puis on vous revient. Je vais vous demander de nous lire quelques passages que vous choisissez comme ça rapidement avant de continuer la petite conversation.
Parfait.
À tout à l'heure, Mathilde.
À tout à l'heure.
Ouais.
Pas être à la mode si on est trop discret. L'harmonie de nos voix ne s'accorde-t-elle pas? L'harmonie de nos voix ne s'accorde-t-elle pas? We'll be right back. peut pas être à la mode si on est trop discret. L'harmonie de nos voix ne s'accorde-t-elle pas?
C'était Alexandre Désilé, dernier cri. Voilà, avant de laisser la parole, le micro à Mathilda pour nous lire quelques passages de son livre rapidement. Là, bon, un résumé rapide. Bon, vous savez, bon, le résumé du livre dit « Depuis un certain temps déjà, le dieu Loki surveille le quotidien de Marie-Ève Duché à Montréal en 2009. En attendant l'arrivée du fils prodige, cette dernière fait son deuil puisque le dieu s'est joué d'elle en tuant sa mère. Dans la perspective de parfaite l'évolution de son fils, qui deviendra le premier voyageur du multivers, trois gardiennes épient tout le temps. Les sœurs mortifères, protectrices des écrous, veillent à ce que rien ne s'oppose au dessein de leur maître. Après tout, au royaume des géants, sûr parviendra-t-il à en faire un véritable guerrier? En effet, sur Midgard, le dieu Loki perturbe les négociations en cours pour la signature du traité commercial visant une alliance avec le roi d'Abu Dabar. Il veut récupérer son fils, Evind. Seule la reine Gisela ressentira la douleur de la séparation. Assurément, elle fait bien de s'inquiéter. Les contre-coups des voyages spatio-temporels s'accompagnent des séquelles irréversibles. Mathilda ?
Oui.
C'est à vous.
Alors, je vais vous lire les extraits du chapitre 7.
Oui.
Donc, on se retrouve dans le royaume d'Asgard.
Oui.
Avec le roi Osfrid. Donc, je commence. Alors, le roi Osfrid ne voulait pas se débattre de ce sujet.
Oui.
Ne voulait pas débattre de ce sujet, à savoir comment faire pour s'approprier les ports des autres villes. Le conseiller du roi d'Abu Dabar étalait la carte comme s'il se fût agi d'un bien précieux. Oui. Nous avançons à pas de géant. Ce que n'était pas vraiment le sentiment du roi. Nous allons nous partager les tâches comme nous l'avions convenu. Mon cher roi appréciera de protéger les marchés de tous les brigands, mais nous ne nous entendons point sur le cœur de notre affaire, les ports 6, 7 et 8, tous situés aux alentours de... Et il hésita. La cité de Montgomera. Oui, c'est ça. Surpris de la réponse rapide de Sa Majesté, le conseiller se sentit tout petit. Le roi Osfrid frappa quelques coups à sa porte qui s'ouvrit. « Faites-le sortir, nous en avons fini tout de suite. » Voilà, c'est ça, c'est l'extrait
merci,
merci du
beaucoup.
Chapitre 7.
Merci beaucoup, Mathilde. Merci.
Je vous en prie.
Oui. Arlette, il y aura une question ?
Est-ce que vous avez... Avec cette culture-là, vous avez dû lire beaucoup là-dessus. Est-ce que ça vous a fait rêver quand vous étiez petite pour que
Non, j'ai pas beaucoup lu. Non, j'ai vraiment pas beaucoup lu là-dessus. J'ai beaucoup lu en général. J'ai beaucoup lu des contes, des romans d'Agatha Christie, des romans d'aventure puis de policiers. C'est vraiment la lecture en général. Et puis après, ben, je suis partie de ce monde-là. Puis je me suis laissée aller.
Ça lisait beaucoup à la maison, papa et maman, et les frères et sœurs.
Mon père, il lisait beaucoup, énormément, oui. Mais les frères et sœurs, mes sœurs, non. Pas du tout, même.
Vous sortez du lot, quoi, parmi les enfants.
Exactement.
Comment elles ont réagi, vos sœurs, quand vous avez sorti les premiers romans, ensuite le deuxième?
Elles m'ont dit déjà, elles ne comprennent pas d'où ça sort, puis comment ça s'est produit, parce que c'était vraiment d'un coup.
Oui.
Je viens d'une famille qui est vraiment dans les chiffres, donc lire, c'est vraiment c'est particulier pour eux, donc ils vont le faire, ils l'ont fait, ils vont le lire, mais ça prend du temps.
C'est
ça.
C'est bien pour ça qu'en audio, ça sera peut-être plus facile.
Oui, je pense qu'en audio, c'est parfait.
Oui,
il y a beaucoup de scènes d'intonation, il y a beaucoup de sentiments, d'émotions qui peuvent ressortir en audio. Mmh.
Mathilda, comment on se sent à quelques jours de la sortie de ce livre en librairie, le lundi 18?
Bien, enfin. Le travail accompli, il est abouti.
Oui.
On peut passer à autre chose.
Oh.
C'est ça.
Ça vous laisse le reste à nous autres, là, les lecteurs, c'est tout.
Maintenant, c'est notre partie. On lâche l'affaire, là, c'est fini.
Oui.
Je veux dire, à un moment donné, il faut laisser faire les choses pour qu'elles se placent.
Oui.
L'œuvre existe. Après, l'auteur a donné tout ce qu'il avait à donner. Oui. Et maintenant, il peut se reposer. Il peut se reposer pour un autre projet.
C'est un livre qui va être à commander puisque les librairies sont fermées?
Oui, non, qui peut être commandé. Il sera sur Renaud-Bray, il sera sur Archambault.
Oui, oui. Bravo, toutes les gammes de la place, quoi, oui.
Mmh. Oui, oui, il est facile d'accès, donc il n'y aura pas de problème pour en avoir un.
Oui, et on dit bravo. Arlette, oui, je te laisse terminer. Arlette.
Allô?
Oui, oui.
On va pouvoir vite le retrouver, donc s'il est...
Oui, oui, oui,
oui.
Et je dis que c'est avec la complicité des éditions de l'Apothéose que ce livre a pu voir le jour. Est-ce que c'est cette même édition qui a fait le premier livre?
Oui, c'est elle aussi. Donc, on a bien collaboré avec la couverture, avec le résumé du livre. C'était une belle collaboration. C'est rapide quand tout le monde s'entend bien, puis qu'il y a beaucoup de respect dans les échanges. Ça se passe très bien.
Oui. Je dis bravo à cette jeune auteure talentueuse. Moi, quand j'ai commencé le livre, je suis déjà arrivé au troisième chapitre d'ailleurs. Et dans le prologue, dans le royaume d'Ashgard, là, le roi Osfrid qui peaufinait la préparation de ses réunions. Et je suis allé là jusque là, je dis. Et là, ça nous dit pour Gisèle, là, qui vraiment, c'est une femme extraordinaire. C'est une femme qui est un peu spéciale quand même. Hein. Mais le roi, il doit dealer avec.
Oui, j'ai voulu me mettre... Gisèle, c'est une femme forte. Hein. C'est une femme rebelle qui prend sa place.
Oui.
Une femme tranquille dans son coin.
C'est pas une Benny Oui-Oui, là.
Non. Merci. J'ai voulu vraiment donner de la place aux femmes, surtout même dans le... mais il y a d'autres femmes aussi qui ressortent beaucoup.
Oui.
Donc voilà, le rôle des femmes au Moyen Âge était elle est en secondaire, mais là
elle a pris sa place.
Elle ressort. Oui, elle ressort.
Elle
oui.
ressort. On est à la fin de l'entrevue. Merci beaucoup Mathilda Topé Fortune et bon voyage dans le monde littéraire. Nous allons te suivre. Moi, c'est la première copie de ton univers littéraire que j'ai. Je pense que je vais plus vous lâcher.
Bonne continuation.
Avec plaisir.
Merci, bonne continuation, bonne année encore une fois, et puis beaucoup de réussite avec ce deuxième bébé.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Bonne continuation aussi, et bonne soirée, merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Malade moi. Oui, je veux bien l'être, car je le suis tout au fond de mon cœur. Aussi mauvaise que l'air.
vérité. Oui, comme l'herbe, ma folle jalousie pousse. La racine coupe les doigts. Telle est ma maladie envers toi. Mais devant toi, je vais défaillir. Je peux pas gagner. Non, je peux pas gagner. Beau jardinier, sérieux, amoureux de ton jardin, là tu vas m'achever. Oui, je suis ton poison et tu auras raison, car à la longue j'envahirai ton cimetière. Je blesserai tes jolies fleurs, j'étranglerai toutes les plantes sublimes, par morsures. Je serai là, triomphante. Déjà entrant, en glissant vers ton lit. Oui, comme l'herbe, ma folle jalousie pousse. La racine coupe les doigts. Ma folle jalousie pousse, la racine coupe les doigts. Telle est ma maladie envers toi.
Jane Birkin sur les ondes de Canal M.
Écoutez Regards croisés avec Fulgence Blas et Arlette Farah.
Alors avant que je vous annonce un petit peu toutes mes nouvelles, que je trouve quand même bonnes, et on va partir en musique avec le groupe Damoiseau qui nous chante En plume.
Tes cahiers sont remplis de phrases éparpillées, ordonnées dans le sens des pages. Tous ces mots qui s'endorment mais qui ne disent rien, tu ne cesses de remettre tout à demain. Où est ta fougue, où sont tes 20 ans, ta Remington et ton Olympia, les nuits de prose où martelaient tes doigts, ta rivière, ton élan. Ta maison de conserve est remplie de cahiers, il entraîne sur tous les étages. Toutes ces pages qui s'enlisent n'iront pas très loin qu'en suivent de près. Trois petits points. Les amuse-gueules et les grands galas, ton nom dans les crédits au cinéma, les petits gains et les gueules de bois, ton haleine de tabac. Tu ne voles.
Où sont passés tes heures? Où est allée ta
Alors aujourd'hui, pour parler de nouvelles qui m'ont fait plaisir, Fulgence,
oui.
Ben, je vais commencer à parler de quelqu'un qui est proche de moi, qui est proche de toi aussi. C'est l'auteur et slameuse Lem. Je sais qu'on l'a eu dans la semaine, mais ce dont je voulais parler, ce qui est quand même très gratifiant, c'est qu'elle a eu un papier qui a été fait en France sur le journal Grand Angle, qui est en Seine-et-Marne, dans sa région. Et le journal titrait qu'elle était reconnue pour être une des 5 femmes qui vont marquer 2021. Ça s'annonce quand même un truc pareil.
Oh oui.
Commençait ainsi. « Si les inégalités persistent entre les hommes et les femmes dans le milieu culturel, 2021 sera résolument féminin. » Et en parlant de Lem, il a été dit « Elle a grandi à Melun et perce sur la scène slam au Québec. » Lauréate de la 6e édition du concours national de slam poésie Québec-France, Lem, l'écorché vive, a fait de cette discipline poétique un catharsis. Un roman en préparation, des podcasts, de nouveaux textes, on n'arrête plus le génie créatif quand il frappe à la porte. Alors, si 2021 renvoie le coronavirus dans les cordes, les Seine-et-Marnais auront le plaisir de redécouvrir sur scène cet artiste à la plume acérée, à Melun et ailleurs. Et je voudrais finir ce texte qui est magnifique et qu'elle mérite bien sur une phrase de Lem qui disait « Toujours, j'ai décidé que je deviendrai une artiste utile. » Et j'ai envie de rajouter « C'est déjà ce que tu es, Lem. » Merci beaucoup. Et pour parler aussi, puisque maintenant tout le monde sait qu'elle est installée à Sherbrooke, elle est porte-parole de Sherbrooke prend la parole, qui est une initiative citoyenne pour démocratiser la poésie. Ça, c'est quelque chose qui te parle, Fulgence. Et pour la rendre plus accessible. Donc, c'est une 7e édition qui se tiendra sur le thème du silence. Qu'est-ce que vous avez des choses à dire sur le silence et qui inspirera les poèmes. Et ils seront accrochés partout dans Sherbrooke en mai prochain. Voilà, c'est quand même une belle consécration.
Oui, oui, très belle consécration. D'ailleurs, j'espère que d'ici mai prochain, on aura le temps de... On nous permettra. Bon, c'est pas le gouvernement qui décide, c'est le virus qui décide. C'est suite au comportement du virus que le gouvernement prend sa décision. Si d'ici mai prochain on peut sortir, qu'on peut se déplacer à l'intérieur de la belle province, pourquoi pas se retrouver
oui,
à Sherbrooke pour
même
lire.
Même si on doit y aller un par un, il n'empêche que l'on peut aller s'y promener, le masque aidant. On a besoin que de nos yeux pour lire les poèmes qui seront inscrits.
D'abord, il faut avoir l'autorisation de se déplacer en région, quoi. Voilà.
Oui, c'est vrai aussi. Alors, je voulais aussi vous parler d'autre chose qui m'a interpellée. On dit toujours que les étudiants, que toute notre jeunesse, et même nous d'ailleurs, sommes un petit peu trop sur nos écrans, et souvent, les ados jouent à des jeux vidéo. Ils ont souvent le nez dans le jeu vidéo. Alors,
cette partie
études.
Que tu as sortie en disant « et même nous aussi
». Oui, parce que nous aussi, on le fait. Moi aussi, je joue, pour la plupart.
Ah, mais, oui, tu le fais. Hein
je le fais aussi.
Arlette,
je,
ouais.
Je veux parler
j'aime
d'un
cette
jeu
franchise,
en ligne.
J'aime cette franchise de ta part. Là.
je vais te parler et vous parler d'un jeu en ligne qui s'appelle « Donjons et Dragons ». Et c'est un jeu qui sert maintenant d'outil pédagogique. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il sert d'outil pédagogique pour les élèves, plus spécifiquement en cours de langue et de sciences humaines. Donjons et Dragons permettent aux élèves de transformer leur travail d'écriture en aventure, ce qui doit leur plaire beaucoup, et puis de transformer certains concepts en apprentissage expérimental, comme par exemple... Si on doit parler des deux guerres mondiales, on peut recréer à travers ce jeu les guerres. C'est une nouvelle stratégie d'apprentissage.
Oui.
Et je trouve que c'est une belle approche pour impliquer les élèves.
Est-ce qu'il est gratuit, d'accord. Ce jeu-là?
Autant que je sache, oui, alors je vais t'en dire un petit peu plus dans un instant. C'est parce que, la raison pour laquelle il m'a interpellée, c'est parce que faut le trouver sur le site de... Sur leur site du jeu Donjons et Dragons.
Tu as le lien ?
En fait...
Ok, oui.
Voilà. En fait, ils ont fait des jeux de rôle et dans ces jeux de rôle, ils ont inclus un nouveau personnage, ce qui permet de faire des groupes de jeux. C'est une aventure où les joueurs, c'est dans le sens des questions-réponses, peuvent aider un personnage qui est pris en lui-même. Donc, ils travaillent sur l'anxiété et la dépression. Mmh. Et ça aide à comprendre peut-être un petit peu plus de choses, un petit peu plus arriver à comprendre un petit peu plus de la maladie mentale.
Oui, de toutes les façons, oui. C'est un très bon moment pour en part à ce genre de jeu-là, d'ailleurs.
Voilà,
une très belle période, quoi, je veux dire. Très bonne période.
C'est utilisé dans les contextes pédagogiques. C'est un... Par exemple, le docteur B qui travaille sur un jeu de rôle sur les compétences sociales. Alors, c'est apprendre à parler, à savoir répondre. Et si l'autre n'y arrive pas, l'aider par un autre jeu de questionnement pour l'amener à prendre confiance en lui et à se sentir...
Et nous qui ne sommes plus sur les bancs, là, on n'a pas mieux. Droit à ce jeu-là, est-ce qu'on peut...
Ah, mais toi, tu as droit tout le temps.
Je ne joue plus. Arlène, j'ai tellement joué avant. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de jouer.
Eh bien, tu recommenceras.
Peut-être un jour, mais j'ai gaspillé... Oui, c'est vrai, j'ai dépensé assez avant... Avant, les jeux sur les disquettes, les... oh waouh, non. Tu as connu les Nintendo, mais... non?
Ah oui, ça aussi.
Oui.
Mais pour terminer avec ce jeu, donc, les fondateurs sont Adam Jones et Adam Davis. Et c'est disponible aussi sur YouTube. Et ils donnent des détails sur la façon dont les compétences peuvent être développées par le jeu intentionnel. C'est quand même bien, ce jeu de questions-réponses. À savoir... Petite mise en garde, John Davis et le Dr B sont tous des professionnels, alors n'essayez pas à la maison de jouer au psychologue, mais en tout cas ça peut être très intéressant, j'avais trouvé ça c'est un bon côté de la créativité que j'aime, c'est-à-dire trouver un moyen, puisque souvent tous les étudiants sont sur des jeux, pourquoi pas se servir du jeu pour apprendre quelque chose, ça s'est déjà fait,
oui,
ça
oui,
se continue,
oui, oui,
et
oui.
Je trouve que c'est une bonne chose et j'avais envie, je t'avoue que j'avais envie d'en parler.
Non, voilà. Ce genre de jeu, par exemple, pour les élèves et étudiants, c'est très intéressant parce qu'il ne suffit pas seulement de jouer. Parce qu'il y a des gens qui s'accrochent au jeu avec les Kalachnikov, oui. Les machins et autres. Là. Bon, ce genre de jeu, ça, c'est très instructif, non? Voilà. Et puis, bon, ça permet aux gens en situation d'anxiété, de dépression et autres, là, de passer à autre chose, quoi.
Voilà, j'en ai fini avec ça, donc on va partir avec la chanson Impératrice qui s'appelle Peur des filles, et puis après je vous parle d'une troisième rencontre que j'ai faite.
Ça va pas leur suffire de les séduire, leur offrir des coquelicots. Elles vont venir pour te punir. Tu sais bien qu'elles veulent ta peau. Pour toi, ni mot doux, ni rendez-vous. Mais un coup de genou bien en place. Tu imagines le fiasco si en plus elles sont costauds.
Je voudrais vous parler maintenant de quelqu'un qui m'a interpellée, qui s'appelle Jennifer Vigneault. Donc, Jennifer Vigneault, elle est auteure, elle est conférencière, elle est formatrice et elle est spécialisée en orientation durable pour le bien-être professionnel et l'entrepreneuriat de sens. Or, sur la base des sciences modernes de la psychologie positive et du biomimétisme, est-ce que tu sais ce que c'est le biomimétisme ?
Non, explique-moi.
C'est de regarder la nature vivre, parce que la nature nous donne des leçons de vie tout le temps. Et c'est ça le biomimétisme.
Regarder la nature vivre.
Oui.
C'est comme quand j'allais prendre une marche et puis j'observais les arbres, les petits papillons qui volent.
Tu le faisais déjà.
Oui, voilà. Je le faisais déjà sans savoir comment ça s'appelle. Je n'ai jamais pu mettre un nom là-dessus, quoi.
Alors maintenant, tu le sauras.
Biomimétisme, voilà, ok. Voilà.
Et elle développe une méthode d'expertise et d'accompagnement des individus en organisation qui souhaitaient réunir dans leur projet les notions de réussite, d'épanouissement et de sens. En fait, ça veut dire, c'est ce qu'on devrait tous vivre dans ton travail, étant donné que tu es toujours capable, tu es un être unique, capable de réussir quelque chose qui n'appartient qu'à toi. Donc, fais ce travail, donne le maximum, choisis ce que tu as envie de faire et ce que tu peux donner dans le travail où tu es. Et elle œuvre pour que l'orientation professionnelle reprenne son sens, pour que le bonheur fasse partie intégrante du travail, qu'on n'y aille pas en reculons, qu'on se dise « Ah, chic, il faut aller travailler, ouais, c'est la fête !» Et pour que chaque individu en entreprise devienne une solution pour le monde. Elle est donc à l'origine de la méthode Human de Life Designing et c'est un concept, du concept permaculture du travail, de la dynamique du bonheur au travail durable ainsi que de nombreux outils pédagogiques d'orientation et de bien-être professionnel. Elle a entre autres écrit un livre qui s'appelle « Réaliser son rêve professionnel grâce au Life Designing ». Je ne l'ai pas encore lu, mais bon. Pour en revenir, tout à l'heure, comme je t'en parlais tout à l'heure, au biomimétisme, c'est vraiment l'approche scientifique révolutionnaire qui consiste à imiter les plus belles inventions de la nature. Par exemple, l'efficacité énergétique, de la photosynthèse, la solidité du corail, la résistance des fils de soie de l'araignée, les propriétés adhésives des filaments de la moule. Et tout ça pour les adapter au service de l'homme. C'est quand même extraordinaire.
Oui.
C'est, ce dont elle va nous parler, enfin, quand on l'invitera, parce que...
Oui, parce que j'ai bien curieux, j'ai bien hâte de l'avoir avec nous ici. Parce que quand moi je vais en forêt, là, les toiles d'araignée, je ne vais pas pour tester leur élasticité, je les évite. Parce que quand je tombe là-dedans sans les avoir vus, ça me dérange tellement. Le visage Voilà.
Mais en fait, tout est utile dans la nature. Il faut simplement savoir reconnaître. Oui. Toute la nature, j'allais dire les animaux, mais il n'y a pas que les animaux. Toute la nature nous donne des leçons de vie sur la façon dont on devrait se conduire, nous. Donc,
on est en plein là-dedans, Arlette, avec le coronavirus.
Ben c'est pour ça que ça m'a interpellée quand j'ai eu de ces nouvelles.
On croyait cette vie qu'on vivait là, on la prenait pour acquis, quoi.
C'est ça, quelque part. Mm-hmm. Donc, ça redonne du sens à ce qu'elle a créé, le life designing, pardon, je prononce mal, redonne du sens à nos métiers et à l'avenir de notre planète. Changer notre manière de nous orienter et de travailler afin de permettre aux futures générations de devenir acteurs de leur vie et du monde. Elle est intimement convaincue que chaque individu est potentiellement une solution unique au monde, c'est-à-dire que tu es une solution unique au monde, je suis une solution unique au monde.
Ou comme chaque individu, est unique au monde, oui.
Voilà, donc elle travaille dessus depuis 10 ans.
Ok.
Et voilà, donc ses méthodes d'orientation prennent aujourd'hui.
C'est une Montréalaise.
De la. Ah ben en fait, elle est moitié franco-canadienne.
Ok.
Et elle vit dans un endroit de rêve. Elle vit à La Réunion.
Oh la chanceuse. Ah, oh la chanceuse.
Oui, hein, je suis bien de ton avis.
Ouais, oh la chanceuse. Donc,
voilà, elle dit « Nos méthodes d'orientation doivent aujourd'hui prendre compte de la santé des individus et de notre planète. Mm-hmm. Il ne s'agit plus d'insérer les jeunes dans une voie sans issue, mais de les accompagner à créer de nouveaux chemins et ainsi redonner un sens au travail. » Voilà, donc... C'est quand même très intéressant. Elle commence ses cours, ses études en disant « Qui es-tu et que veux-tu ?» Eh bien, je vais te dire qui on est. On peut peut-être y répondre, mais que veux-tu ? Il va peut-être y avoir un blanc.
Oui, parce que...
Peut-être falloir chercher ce qu'on veut vraiment.
Ce qu'on veut, on veut, mais est-ce que la vie nous donne toujours... Bon, pourquoi est-ce qu'il y a... avant que tu ne continues, Arlène, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui font souvent le procès de la vie, parce que la vie ne leur a pas donné ce à quoi ils s'attendaient. On rêve tous. Chacun de nous aimerait bien vivre de sa passion, mais combien de gens qui vivent de leur passion ?
Eh bien, justement, c'est le travail qu'elle fait, c'est ce qu'elle a créé. Elle a même créé une école à La Réunion, donc j'aimerais ça qu'elle vienne nous en parler.
Oui.
Et puis, elle aide les autres à réaliser leurs rêves professionnels. Donc, elle dit que le bonheur au travail devrait être une nécessité. Donc, rendez-moi heureuse quand je viens au travail. Mais je le suis.
Oui, oui. Non, il faut, voilà.
Elle dit que les 4 piliers du bonheur, c'est... la singularité, c'est-à-dire qu'elle va dans des entreprises pour aider les patrons et les ouvriers à s'entendre et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc la singularité, c'est valoriser la singularité de chaque salarié. L'enthousiasme, développer des leviers d'enthousiasme pour chaque salarié. La nature, s'inspirer de la nature pour agir efficacement et durablement. Et du sens. Mettre du sens au cœur de notre travail.
Oui.
Donc, moi, quand j'ai fait quand j'en ai entendu parler, je me suis dit, ah là, ça, c'est une invitée pour nous, ça. C'est une invitée pour regard croisé.
Et puis, dans les entreprises, une parenthèse, s'il te plaît, Arlette, dans les entreprises, il faudrait pas que si le patron ne se prend pas pour le centre du monde, s'il joue pas au grand Dieu, que les employés arrivent à l'approcher sans aucune crainte. Ah, moi, j'ai peur d'aller dire ça au patron, à lui demander ça parce qu'il va me sauter au plafond. Et ça commence par là, d'être bien, de se lever le matin et de prendre sa voiture ou bien prendre l'autobus ou bien le métro, se rendre au bureau sans toutefois avoir des petits trucs au cœur. Se dit, tiens, je m'en vais travailler, je vais retrouver des collègues super sympas. Un patron qui ne nous tape pas là-dessus toute la longueur de journée, et qui reconnaît notre valeur, nos valeurs, la valeur à chacun des employés de l'équipe. Et puis, ça donne toujours...
Écoute, voilà. On aura plein de questions à lui poser là-dessus.
Oui.
Et pour terminer, je voudrais rappeler que le vendredi 22 janvier, c'est-à-dire
pourquoi,
vendredi
prochain... C'est ta quatrième nouvelle déjà ?
C'est ma quatrième nouvelle déjà.
Ok, d'accord.
Le 22 janvier, il y a le spectacle Les 4 saisons d'André Gagnon. Donc, avec Kathleen Fortin et Stéphane Aubin. Donc, on peut retrouver en web diffusion parce que ça va être en direct du Palais Montcalm de Québec. Très, très bel endroit. Et bien assis dans notre salon, nous sommes tous invités à regarder ce spectacle, à voir et à entendre cet événement qui revisite les grands succès de cet artiste qui nous a quittés récemment et qui était très très aimé du public, Monsieur André Gagnon. Donc oui. Sa carrière s'est quand même échelonnée sur plus de 50 ans et il a multiplié les succès ici comme à l'étranger.
50 ans de carrière, waouh.
Tu te rends compte? Donc pour ce faire, eh bien, on va écouter une chanson d'André Gagnon. Gagnon, pardon. Pourquoi j'ai dit Gagnon? Excusez-moi.
André. Parce qu'il y a André qui est venu avant.
Et voilà, c'est ça. Et qui s'appelle, ce qu'on aurait tous envie de dire, Wouh.
Waouh.
Waouh. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission, fin de la semaine.
Oui, c'est la dernière émission de la première semaine du 2021.
Merci. Je vais plus dire
2021, je dis 2021 comme toi. Merci Arlette.
Oui, merci à toi aussi, Fulgence.
Et on
merci
dit
à ton
rapidement merci à notre invitée Mathilda Topé-Fortune pour son livre Les écrous du temps percé, partie 1,
voilà.
En librairie merci, le lundi 18 janvier. Merci aux auditeurs.
Maurice Bolduc pour les musiques. Aussi.